Heureux d'être là avec vous sur Présence dans l'Occitanie avec vos rendez-vous quotidiens comme dans 10 minutes, l'interview avec Isabelle Honnel. Elle est en compagnie de Véronique Desfour, directrice enfance-famille au département de Haute-Garonne. La question d'aujourd'hui est quel est le parcours d'un mineur non accompagné. Vous aurez ensuite votre émission Église Actualité avec Emmanuel Pella, c'est dans 20 minutes. Puis nous irons faire le tour des diocèses, toujours avec Isabelle, en Ariège et à Pamiers, c'est dans une demi-heure. Votre chronique en fin d'heure, Air du temps, avec Patrice Damplanquette, avec une lecture parue il y a 3 jours. Mais avant, les titres avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giraud, en cette pause repas.
Il n'y aura pas de salon d'agriculture millésime 2021. Il devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars. Il est annulé en raison de la crise sanitaire. Le concours général qui juge chaque année environ 12 000 produits agricoles et alimentaires du pays et dont les finales se tiennent pendant la durée du salon sera maintenu avec l'accord du ministère de l'Agriculture et pourrait se tenir dans différentes villes de province. Une surveillante de la prison de Seyss en Haute-Garonne a fait l'objet d'une enquête pour violence sur 2 détenus. Les faits sont intervenus à la fin du mois d'août. Elle a été placée en garde vu et sera jugé devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les associations de Pamiers vont devoir se serrer la ceinture. La municipalité a en effet décidé de réduire de 20% l'enveloppe financière qui leur est dédiée au motif que la crise sanitaire avait annulé de nombreuses manifestations. Le tribunal correctionnel d'Auch jugeait hier 5 personnes. Elles étaient poursuivies pour avoir, entre juin et juillet 2019, réquisitionné les portraits du président de la République accrochés dans les mairies de Baran, Castelnau-Barbarins et Saint-Jean-de-Comtal. Le ministère public qui reconnaît la légitimité du combat pour le climat a requis des peines de 100 à 300 euros avec sursis. Le jugement sera rendu le 27 octobre. Crise sanitaire, le virus gagne du terrain en Occitanie. Les chiffres communiqués 2 fois par semaine par l'Agence régionale de santé montrent une dégradation qui va crescendo depuis le mois de septembre. Dans son dernier bilan publié hier, l'Agence régionale de santé note que tous les départements, hormis le Lot, qui s'en tirent mieux pour le moment, sont progressivement de plus en plus impactés par le virus. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, annonce avoir trouvé les 25 000 volontaires dont elle a besoin pour tester le vaccin contre le coronavirus. Il n'a pas fallu plus de 10 jours. L'appel à candidature avait été lancé le 1er octobre. Les CHU de Toulouse et Montpellier participent à cette vaste vague de tests. Basket, après 3 matchs reportés à cause de la Covid-19 qui a frappé l'intégralité de son effectif, l'Élan Béarnais est autorisé à reprendre sa saison. Les tests passés depuis la semaine dernière ont progressivement confirmé que la très grande majorité des joueurs étaient de nouveau négatifs.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi de hors averse dans quasiment l'ensemble de l'Occitanie, sauf dans le Gers et en Haute-Pyrénées où il y aura des risques d'orage, 11 degrés de moyenne. Demain matin, des éclaircies près du gouffre de Padirac avec 7 degrés, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et un petit 3 degrés tout près de Rodez. Pour les autres départements, un temps très nuageux sur les Ramblas près du Taureau de l'hôtel Pullman à Toulouse où le mercure montera jusqu'à 8 degrés. Ça sera pareil pour Auch et sur la chaîne des Pyrénées, l'après-midi un temps très lumineux dans le Lot près de Montauban et dans la Haute-Garonne et le Gers où il fera 12 degrés, quelques gouttes tout près de Tarbes et de la Grisaille pour De Casseville avec le thermomètre qui affichera un petit 8 degrés. Isabelle, vous recevez à Véronique Desfour, elle est directrice enfance-famille au département de Haute-Garonne.
Présence, le grand entretien.
On les appelle les mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas la nationalité française et qui se trouvent sur le sol français séparés de leurs représentants légaux. Alors, vous vous en souvenez, hein, l'un d'entre eux s'est tristement illustré le 25 septembre dernier lors d'une attaque au couteau. C'était près des locaux de Charlie Hebdo. Alors ce matin, on se pose la question, qui sont ces jeunes dont certains sont encore des enfants? D'où viennent-ils? Mais surtout, comment ils sont pris en charge? Réponse avec mon invité. Bonjour Véronique Desfour.
Bonjour.
Vous êtes directrice enfance-famille au département de Haute-Garonne. À ce titre, vous avez la responsabilité de la prévention jeunesse, de l'aide sociale à l'enfance, qu'on connaît sous le nom de l'ASE, et de la PMI, la protection maternelle infantile. Alors, on le comprend à travers votre titre et votre responsabilité, hein, la prise en charge de ces jeunes, ces mineurs non accompagnés, c'est une compétence des départements, une compétence départementale. Alors, s'il vous plaît, Véronique Desfours, avant de nous éclairer sur le parcours de ces jeunes, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce que dit le droit français, ce que dit la loi par rapport à ces mineurs non accompagnés ? On leur doit quoi, en fait, et pourquoi ?
Alors, on leur doit... Alors, effectivement, ces mineurs non accompagnés donc, relèvent de la compétence exclusive du Conseil départemental. Le président du Conseil départemental est pilote de la protection de l'enfance. Et à ce titre, les personnes qui se présentent mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, c'est ce que dit la loi, sont prises en charge par le Conseil départemental.
On leur doit une forme de protection, c'est ça ?
On leur doit une forme de protection parce qu'ils sont seuls sur le territoire français, sans représentant de l'autorité parentale, donc considérés comme vulnérables, et mineurs, isolés, et donc considérés comme en danger. Et c'est pour cette raison qu'ils relèvent de la protection de l'enfance.
Et est-ce qu'on cherche, et si on ne le fait pas, pourquoi, à retrouver leurs parents, à ces enfants ? On verra que certains sont très jeunes. Est-ce qu'on les recherche, leurs parents ?
Alors, ça dépend de l'histoire que va nous raconter le jeune et de son souhait. Bien sûr, si le jeune nous raconte, nous indique qu'il souhaite retrouver ses parents, on mettra tout en œuvre pour les retrouver. Si le jeune nous indique, et dans la majeure partie des cas, c'est la situation, ils nous indiquent avoir été séparés de leurs parents, ne savent pas savoir où ils sont, ou leurs parents étant décédés, donc on n'a pas de raison de de rechercher en fait ses parents.
Alors on va effectivement s'attacher à aller les observer et à les comprendre, ces jeunes, découvrir qui ils sont. Ils sont combien actuellement au moment où nous nous parlons en Haute-Garonne ?
Au moment où nous nous parlons, ils sont 1179 pris en charge par le conseil départemental, dont la moitié est constituée de jeunes majeurs.
De jeunes majeurs, intéressant. Il en arrive tous les jours ?
Il en arrive tous les jours.
Combien ?
À peu près une dizaine par semaine.
10 par semaine. Et alors, ils viennent d'où, ces jeunes ? Ils ont, alors, vous dites qu'il y a aussi des jeunes majeurs. Ils ont quel âge en moyenne et d'où viennent-ils ?
Alors, la plupart d'entre eux arrivent aux environs de 16 ans et demi, 17 ans. Voilà. Et la grande majorité d'entre eux vient d'Afrique subsaharienne. On a quelques enfants qui arrivent d'Afrique du Nord également. Et plus à la marge, on a des jeunes qui viennent d'Asie, quelques Albanais aussi.
Ils sont arrivés par quels moyens sur le territoire et en Haute-Garonne en particulier ?
Alors, ils ont réalisé un parcours migratoire important. Donc, ils se sont déplacés. Souvent, ils traversent la Méditerranée avec d'autres.
Oui.
Voilà.
Ils vous disent les raisons pour lesquelles ils sont sur le territoire français ? Ils viennent chez nous ?
Alors, certains nous indiquent effectivement donc fuir des zones de conflit. Ouais. D'autres viennent aussi pour, dans le cadre d'une migration économique, en espérant trouver effectivement en France les moyens en fait de faire des études. Ils sont très très accrochés en fait à cette idée-là de faire des études et de pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins.
C'est l'Eldorado qui leur est promis, hein, c'est ça, hein, qui les fait venir ici, c'est ça ?
Pour certains.
Pour certains, c'est comme ça qu'ils le voient. Alors quel est leur parcours, leur porte d'entrée quand ils arrivent au département ? Quelle est la première porte qu'ils ouvrent et pourquoi ils viennent vers vous ?
Alors la première porte qu'ils ouvrent, alors on fait un accueil inconditionnel. Donc la première...
Ça veut dire qu'on accueille tout le monde.
On accueille tout le monde. Toute personne qui se présente mineure privée, donc temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, c'est-à-dire en fait mineure isolée, bénéficie d'un accueil inconditionnel et est mis à l'abri.
Donc il a un toit automatiquement.
Tout à fait.
Et ça se passe où ? C'est quoi la première porte ? Comment ils savent où aller ?
Alors, certains arrivent directement au dispositif départemental d'accompagnement et d'orientation et d'évaluation des mineurs isolés.
Le DAOMI,
ouais. Voilà. D'autres arrivent au conseil départemental et nous les orientons vers le DAOMI. D'autres sont amenés en fait par le commissariat. D'accord. Puisqu'ils ont été repérés dans la rue et donc du coup sont accompagnés au DAOMI.
Et alors il se passe quoi ? Donc accueil inconditionnel, donc mise à l'abri ou ?
Mise à l'abri, alors on a travaillé tout un parcours, d'abord une mise à l'abri, et puis dès la mise à l'abri commence une phase d'évaluation conduite à partir en fait d'un référentiel, à l'appui d'un référentiel national, mm-hmm. puisque donc la loi en fait fixe un référentiel, et on va évaluer en fait la situation du jeune, c'est-à-dire la question de la minorité, mais surtout la question de son isolement.
Ça veut dire que vous pouvez remettre en question son isolement ?
Alors, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur le parcours, donc on a plusieurs faisceaux d'indices, son histoire, son parcours, son niveau scolaire aussi, l'observation de son comportement, et effectivement, ça va déterminer, en fait, on va travailler donc sur une évaluation qui devrait prendre, en fait, 5 jours, puisqu'on est dans le cadre d'une mesure de protection administrative, d'un recueil provisoire d'urgence. Mm-hmm. Bien sûr, on informe le procureur, enfin le parquet tout de suite, effectivement, dès l'accueil en fait d'un mineur dans notre dispositif, dans le cadre de l'accueil d'urgence. Et cette évaluation, en réalité, elle prend entre 12 et 20 jours actuellement, 20-21 jours.
Et avec cette question également épineuse parfois, d'établir la minorité du jeune, hein, et c'est ce qui a fait un peu polémique avec le malheureux événement dont je parlais, hein, cette attaque près des locaux de Charlie Hebdo, le jeune prétendu mineur ne l'était pas, c'est ça ? C'est ça que vous essayez d'établir, c'est la minorité.
C'est la minorité.
Sur quelle base ?
Et l'isolement.
Et l'isolement.
Et bien, sur la base donc, de son parcours.
La minorité, j'entends. Comment est-ce que vous l'établissez ?
Et sur la base des papiers qu'il va produire. Donc certains, effectivement, produisent des papiers, d'autres les ont perdus. Et du coup, on va se focaliser en fait, sur le parcours du jeune. En cas de doute, le doute bénéficie au jeune et on va l'accueillir. Enfin, on va saisir le procureur.
Et oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le bien fondé de la loi française, c'est que le doute bénéficie aux mineurs, et on est dans un contexte déclaratif, en fait.
Oui. On est dans un contexte déclaratif, puisqu'ils nous livrent leur parcours, et on fait effectivement avec la matière qu'ils nous apportent.
Mmh. Alors, il y a quand même des tests de maturité osseuse qui peuvent être faits, si vous avez vraiment, pour lever vraiment un gros doute, hein.
Alors, les tests osseux sont réalisés à la demande du parquet.
D'accord.
Voilà. S'il y a un doute, effectivement, le parquet peut demander un test osseux, mm-hmm. le poignet ou la clavicule.
Mm-hmm. Alors, une fois qu'il est après ce parcours d'évaluation, vous nous avez dit que normalement c'est 5 jours, mais ça pouvait aller jusqu'à une vingtaine de jours. Pendant cette durée, le jeune est mis à l'abri. Vous avez évalué son âge. Une fois qu'il est authentifié mineur, qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Alors, donc on a évalué son âge, son niveau scolaire, etc. Il a bénéficié aussi d'un bilan de santé pendant cette phase d'évaluation. Et ensuite, effectivement, donc, s'il est donc reconnu mineur, il nous est confié. Mmh. Il nous est confié et là, il relève comme les autres mineurs en fait, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance. Et il bénéficie donc d'une orientation adaptée à sa situation et à son besoin et d'un référent ASE, en fait, d'un travailleur social qui va l'accompagner durant son parcours de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et on va travailler avec lui sur son insertion, sur sa scolarité. Hein, puis on va l'accompagner donc dans ses démarches d'insertion, de formation qualifiante. C'est ce qui lui permettra après d'obtenir un titre de séjour.
Ça, c'est le but visé, l'obtention d'un titre de séjour ?
Le but visé, effectivement, c'est le titre de séjour pour effectivement pouvoir s'insérer ensuite.
Mais l'obtention, ça sera pour quand il sera majeur.
Quand il sera majeur.
Pour le moment, c'est pas le sujet. Pour le moment, le sujet, c'est d'en faire un jeune inséré, scolarisé. Où est-ce qu'il va être amené à vivre ?
Alors, il est amené à vivre. Alors, le département, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas de jeunes de MNA à l'hôtel.
MNA, c'est mineur non accompagné,
excusez-moi, ouais. À l'hôtel, puisque le département, en 2016, a fait le choix d'arrêter les prises en charge à l'hôtel. Et du coup, tous les jeunes qui nous sont confiés sont accueillis dans des maisons d'enfants à caractère social, des lieux de vie, des résidences habitat jeunes, dans des lieux adaptés à leur situation et à leurs besoins.
Avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément des mineurs non accompagnés, mais qui sont des enfants qui ont des difficultés telles ou telles et qui se retrouvent dans ces maisons.
Tout à fait.
D'accord. Et dans ces maisons, ils sont scolarisés, ils ont un tuteur.
Alors, ils sont scolarisés ou effectivement plus orientés sur un parcours d'apprentissage. Hein, ça dépend effectivement de leur niveau scolaire. Et ils bénéficient, enfin, ils font de loisirs, du sport. Enfin, on travaille vraiment sur toute l'insertion, en fait.
Vous avez dit que le département a fait le choix. Ça veut dire que dans le cadre de la loi, qui est celle d'accueillir et de protéger ces jeunes qui sont pour certains des enfants, il y en a des très jeunes, vous m'avez dit en préparant cet entretien, hein, le département a pour autant a le choix d'adopter telle ou telle politique ?
Alors effectivement, les départements s'administrent librement et du coup effectivement, c'est le niveau d'intervention en fait qui va différencier les modalités de prise en charge d'un département à l'autre. Voilà. En Haute-Garonne, il a été décidé donc d'accueillir ces mineurs, ces enfants, comme les autres enfants en fait, de l'aide sociale à l'enfance, et de les intégrer dans le parcours.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des départements qui accueillent plus facilement ou qui ont une politique plus favorable à l'accueil de ces enfants ?
Alors là, je
c'est
ne
une
sais pas,
piège.
Mais
c'est
il
la
y a des
piège.
Départements aussi effectivement, qui accueillent ces jeunes à l'hôtel, on a pu le voir...
Et effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants ? Vous avez dit, donc, ils sont pris en charge, ils vont à l'école ou ils sont en apprentissage. Lorsqu'ils ont 18 ans, ils sont relâchés dans la nature ?
Pas du tout. Donc,
pas du tout.
Puisque, donc, là aussi, encore une fois, donc, notre département a fait le choix de maintenir, en fait, des contrats jeunes majeurs. Et donc, à leur...
Des contrats jeunes majeurs ?
Des contrats jeunes majeurs.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, c'est un dispositif qui a été créé en 1974, au moment où la majorité, en fait, est descendue de 21 ans à 18 ans. Et effectivement, pour continuer en fait à prendre en charge des jeunes en fait qui demeuraient toujours en difficulté à 18 ans. Mmh. Donc les mineurs non accompagnés bénéficient des mêmes droits en fait que l'ensemble des mineurs que nous accueillons dans le dispositif de
protection. C'est un SAS en fait avant de les faire retomber dans le droit commun.
C'est un SAS avant de les faire retomber effectivement dans le droit commun qui permet finalement de finaliser leur parcours. Donc certains sont engagés dans des études supérieures, d'autres dans des formations qualifiantes, et c'est effectivement le petit plus qui va leur permettre d'aller au bout de ce parcours.
Et d'accrocher un titre de séjour.
Et effectivement, donc, à 18 ans, s'ils ont effectivement, on dépose en fait le dossier, lorsqu'ils se sont engagés 6 mois avant le dépôt du titre, dans un parcours en fait de formation qualifiante. Voilà.
Est-ce que c'est un échec pour l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'à 18 ans, il n'y a pas de contrat jeune majeur et que le jeune doit rentrer au pays ? Est-ce que ça arrive ?
Alors, on a peu, en fait, on a aujourd'hui plus de 660 contrats jeunes majeurs
pour les
MNA.
La majorité.
Donc c'est quand même la majorité d'entre eux. Ce sont des jeunes qui ont envie de s'insérer, qui sont là donc pour cette raison, qui veulent faire des études, qui veulent des formations qualifiantes, qui veulent travailler en France. Et donc du coup, effectivement, on a en règle générale des contrats jeunes majeurs et on arrive à les accompagner jusqu'au dépôt du titre. Et lorsqu'ils l'obtiennent, ce sont des jeunes qui s'intègrent parfaitement, qui ont accès au logement et qui...
Et vous arrivez à les suivre ou à ce moment-là, il faut malheureusement, j'ai envie de dire, les lâcher et leur donner la possibilité de vivre leur vie. Est-ce que vous avez un retour sur eux ? Est-ce qu'ils reviennent parfois ?
Alors, à un moment... Alors, il y en a qui ont tissé des liens très forts, en fait, avec les lieux d'accueil où ils vivent. Il y en a qui ont tissé aussi des liens très forts avec leurs référents à eux. Et du coup, effectivement, il peut y avoir aussi quelques informations sur leur parcours.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique Desfours. C'était très clair. Grâce à vous, on en sait plus sur le parcours de ces mineurs non accompagnés. Il y en a 1179 pris en charge aujourd'hui par le département de Haute-Garonne que vous représentez. Merci à vous. Bravo pour cette mission.
Dans 3 minutes, Emmanuel Pella arrive pour votre agenda, le temps qu'il s'installe de la musique avec Aimée d'Isabelle Aubray sur votre radio chrétienne.
Aimer, c'est voir s'ouvrir les horizons, briser les murs de la prison où l'on se tenait enfermé. C'est vivre au pays des merveilles, c'est donner raison au soleil et découvrir comment l'allumer. C'est aller bien plus loin que tout, être plus fou que tous les fous, plus innocent qu'un nouveau-né. C'est donner tout avec les yeux, c'est être bien plus fort que Dieu et se le faire pardonner. C'est simplement aimer. Me dis jamais que tu aimais. Ça n'a pas d'imparfait. Aimer, c'est s'endormir du côté cœur, faire des prévisions en couleur pour 100 000 millions d'années. C'est se saouler dans un sourire, se blesser aux éclats d'un rire, pleurer Méditerranée. C'est dire à la vie pince-moi et voir que l'on ne rêve pas, que c'est la vie qui a rêvé. C'est être plus fort que le temps, plus étourdi que le printemps et plus se reçoit. L'amour ne se fait pas. Aimer, c'est effeuiller toute sa vie, la seule marguerite qui n'a jamais pu être effeuillée. C'est le sourire d'un enfant, la barricade qu'on défend, la main tendue de l'amitié. C'est tourner le dos à la mort et c'est aller planter son décor du côté de l'éternité. C'est tout d'abord s'abandonner, c'est tout comprendre, tout donner et apprendre à tout pardonner. Aimer, c'est simplement aimer. Aimer, c'est simplement aimer.
Présence sur le plateau du Larzac. 106.5.
Église Actualité. Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, mercredi 14 octobre à Toulouse. Pour rappel, le diocèse de Toulouse propose de venir participer à la messe des étudiants en présence de Mgr Robert Legal, archevêque du diocèse. Rendez-vous aujourd'hui à 20h au couvent des Jacobins à Toulouse. Demain, jeudi 15 octobre, à Rodez, le diocèse de Rodez et de Vabres propose, pour rappel, d'assister à la conférence « L'humanisme intégral », conférence qui sera donnée par le père Paul Valadier, jésuite, professeur émérite de philosophie aux facultés jésuites de Paris, suite à la publication de l'encyclique sociale du pape François « Tutti Fratelli ». Rendez-vous demain à 10h30 à la maison diocésaine Saint-Pierre, à Rodez. Ce vendredi 16 octobre à Lourdes, le Centre Assomption organise une retraite intitulée « Initiation aux exercices spirituels » qui sera animée par les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Un temps de retraite selon les exercices de Saint Ignace, saint fondateur des jésuites. Pour ton renseignement, un site internet www.assomption-lourdes.com. Ce vendredi 16 octobre, également à Pau, la paroisse de la Sainte Famille propose, comme chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière pour les malades et ceux qui souffrent, précédée du chapelet, qui sera dit accompagné par la communauté de l'Emmanuel. Rendez-vous ce vendredi 16 octobre à 19h à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Ce vendredi 16 octobre également, à Cahors, le diocèse de Cahors propose une veillée miséricorde avec au programme adoration du Saint-Sacrement, proposition du sacrement de réconciliation ou possibilité de rencontrer un prêtre. Rendez-vous ce vendredi 16 octobre à 20h30 à la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Ce samedi 17 octobre, enfin, à Castres, le diocèse d'Albi propose de venir participer aux états généraux de la pastorale des jeunes. Une journée pour permettre à toutes les personnes, laïcs, prêtres et religieux en mission auprès des jeunes, de se retrouver pour prier et mettre en place un projet pastoral diocésain pour les jeunes. Rendez-vous ce samedi 17 octobre à 9h au couvent bleu à Castres.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
L'essentiel de l'actualité avec Luc Vidal-Giraud partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table.
Bonjour à tous, il n'y aura pas de salon de l'agriculture millésime 2021. Il devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars. Il est annulé en raison de la crise sanitaire. Le concours général qui juge chaque année environ 12 000 produits agricoles et alimentaires français et dont les finales se tiennent pendant la durée du salon sera maintenu avec l'accord du ministère de l'Agriculture et il pourrait se tenir dans différentes villes de province. Les concours animaux sont quant à eux reportés à 2022. Les organisateurs doivent encore réfléchir à l'éventuelle tenue des concours destinés aux jeunes agriculteurs et ceux portant sur les pratiques agroécologiques. On sait d'ores et déjà qu'il devrait y avoir une mise en place de points de vente de produits agricoles à Paris, vraisemblablement dans des marchés fermiers en plein air. Les organisateurs évoquent également la tenue à Paris d'un ou plusieurs débats de portée nationale sur l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation, vraisemblablement autour du thème de la souveraineté alimentaire. La préfecture du Lot annonce l'interdiction des rassemblements festifs ce jeudi à Figeac et Cahors. Traditionnellement, avant les vacances de la Toussaint, étudiants et lycéens organisent des fêtes le jeudi soir dans ces deux villes du Lot. Ils prenaient jusque-là la forme de vastes repas de classe. Ces repas s'accompagnent généralement de grands rassemblements et d'une forte alcoolisation qui peuvent générer des troubles à l'ordre public, précise la préfecture du Lot dans un communiqué. Les maires de Cahors et de Figeac ont donc interdit au titre de leur pouvoir de police ces rassemblements de plus de 10 personnes, ainsi que le transport et la consommation d'alcool sur l'espace public jeudi prochain. Ces interdictions prennent effet entre 18h et 2h à Cahors et entre 18h et 6h du matin à Figeac. Une surveillante de la prison de Seyss en Haute-Garonne fait l'objet d'une enquête pour violence sur deux détenus. Les faits sont intervenus à la fin du mois d'août. Elle a été placée en garde à vue et sera jugée devant le tribunal correctionnel de Toulouse. La surveillante âgée de 47 ans reconnaît être intervenue auprès de deux détenus qui fumaient dans un endroit interdit. Elle affirme avoir donné une gifle à l'un d'eux parce qu'elle l'aurait considéré comme menaçant. La version des deux détenus mentionne au contraire des faits violents et gratuits. L'un aurait été roué de coups et l'autre tiré violemment par les cheveux. La surveillante sera jugée par le tribunal correctionnel de Toulouse en mai 2021. Les associations de pamiers vont devoir se serrer la ceinture. La municipalité a en effet décidé de réduire de 20% l'enveloppe financière qui leur est dédiée au motif que la crise sanitaire avait annulé de nombreuses manifestations. La mairie va étudier au cas par cas les besoins des associations et leur a demandé leur compte. Cette baisse de 20% des subventions représente au total une baisse de près de 160 000 euros par rapport à 2019. Pour l'opposition municipale, ce message de défiance vis-à-vis des associations est un très mauvais signal, un choix désastreux. Tout cela pour des économies de bout de chandelle. Le tribunal correctionnel d'Auch jugeait hier 5 personnes. Elles étaient poursuivies pour avoir, entre juin et juillet 2019, réquisitionné les portraits du président de la République accrochés dans les mairies de Baran, Castelnau, Barbarins et Saint-Jean-le-Comtal. Ses membres du collectif Action non-violente COP21 avaient ensuite posté des photos sur les réseaux sociaux pour rendre visible leur action, qui faisait partie d'une mobilisation nationale. Ce décrochage visait à dénoncer l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Le tribunal s'est montré plutôt clément. Le ministère public, qui reconnaît la légitimité du combat pour le climat, a requis des peines de 100 à 300 euros avec sursis. Le jugement sera rendu le 27 octobre. Lucidité et humanité, tels sont les maîtres mots prônés par le préfet des Hautes-Pyrénées au cours d'une table ronde qui a réuni services de l'État, collectivités parlementaires, représentants des saisonniers, des commerçants, hôteliers du sanctuaire de Lourdes. Une réunion qui avait pour cadre les conséquences de la crise sanitaire pour la cité mariale. Dans un entretien à la Nouvelle République des Pyrénées, le préfet Rodrigue Fursy, qui rappelle que la situation est très grave avec une activité qui a chuté à Lourdes de 90% cette année, dit qu'il faut avoir un langage de vérité sur les perspectives d'activité pour 2021 afin que chacun puisse se projeter sur le plan personnel et professionnel. Et d'ajouter, l'activité telle qu'elle existait sur Lourdes ne reviendra pas d'ici des mois, voire des années. Alors concernant la situation très précaire des saisonniers, le préfet note que 384 d'entre eux se retrouvent en situation de fragilité, dont 123 en fin de droit d'ici la fin d'année, ce qui nécessite un traitement urgent. Outre une cellule de suivi individualisée, une maison des saisonniers sera créée à Lourdes. Le préfet indique que l'État mobilisera son enveloppe de contrats aidés et que Pôle emploi et la région proposeront des formations avec des débouchés locaux. Rodrigue Fursy note enfin des points d'optimisme. L'activité, notamment touristique et à l'exception du Calourdais, se maintient à un bon niveau dans les Hautes-Pyrénées. Le département résiste bien sur le plan économique. Il ne faut pas, conclut-il, avoir une vision pessimiste. Crise sanitaire, le virus gagne du terrain en Occitanie. Les chiffres communiqués deux fois par semaine par l'Agence régionale de santé montrent une dégradation qui va crescendo depuis le mois de septembre. Dans son dernier bilan publié hier, l'Agence régionale de santé note que tous les départements, hormis le Lot, qui s'en tirent mieux pour le moment, sont progressivement de plus en plus impactés par le virus. La progression du taux d'incidence est forte, notamment dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Les métropoles de Toulouse et de Montpellier sont particulièrement touchées. Elles ont été placées en alerte maximale. Cela pourrait prochainement arriver à Perpignan, où les seuils d'alerte sont proches. La Covid-19 a fait 24 décès supplémentaires depuis vendredi dernier dans l'un des services des hôpitaux de la région. Actuellement, 633 personnes sont hospitalisées, soit 60 7 de plus en seulement 4 jours. 159 d'entre elles sont en réanimation, soit 10 de plus. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, annonce avoir trouvé ses 25 000 volontaires pour tester le vaccin contre le coronavirus. Il n'a pas fallu plus de 10 jours. L'appel à candidats avait été lancé le 1er octobre. Les CHU de Toulouse et Montpellier participent à cette vaste vague de tests. Et puis en basket, après avoir 3 matchs reportés à cause de la Covid-19 qui a frappé l'intégralité de son effectif, l'élan béarnais est autorisé à reprendre sa saison. Les tests passés depuis la semaine dernière ont progressivement confirmé que la très grande majorité des joueurs étaient de nouveau négatifs. Après une batterie de tests supplémentaires, ils sont autorisés à reprendre l'entraînement et donc la compétition. Les Palois ont rendez-vous samedi soir à Dijon.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres dans l'Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, d'orages averses dans quasiment l'ensemble de l'Occitanie, sauf dans le Gers et en Haute-Pyrénées où il y aura des risques d'orage, 11 degrés de moyenne. Demain matin, des éclaircies près du gouffre de Padirac avec 7 degrés, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et un petit 3 degrés tout près de Rodez. Pour les autres départements, un temps très nuageux sur les Ramblas près du Taureau de l'hôtel Pullman à Toulouse, où le mercure montera jusqu'à 8 degrés. Ça sera pareil pour Auch et sur la chaîne des Pyrénées, l'après-midi un temps très lumineux dans le Lot près de Montauban et dans la Haute-Garonne et le Gers où il fera 12 degrés, quelques gouttes tout près de Tarbes et de la Grisaille pour Decazeville avec le thermomètre qui affichera un petit 8 degrés. Nous allons partir pour faire le tour des diocèses à Pamiers, tout près de Tarascon-sur-Ariège où vous nous écoutez sur le 100.2. Merci beaucoup, nous sommes ensemble entre midi et deux.
Je vous emmène dans le diocèse de Pamiers-Couserans, Mirepoix. Nous retrouvons le vicaire général, le père Serge Billot. Bonjour père.
Oui, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe en Ariège? Qu'est-ce qu'il faut noter dans les prochains jours, prochaines quinzaines, père?
Eh bien écoutez, je vous invite à un atelier biblique. Ah. À un atelier biblique à Doumazan-sur-Arize. Alors c'est une série de rencontres. Tous les lundis, enfin pas tous les lundis, mais certains lundis, je vous donnerai les dates dans quelques minutes. C'est un atelier œcuménique qui regroupe des catholiques et des protestants. Mais c'est un atelier aussi ouvert à toute personne désireuse de cheminer ensemble à travers la parole biblique. Et le thème pour les prochaines rencontres, c'est un thème, je crois, très intéressant. Ces versets bibliques qui dérangent. Ah. Des versets bibliques qui, souvent, peuvent paraître étranges, violents, et qui peuvent vraiment nous interroger sur le sens de cette parole.
Surtout s'ils sont sortis de leur contexte.
Voilà, tout à fait.
Alors, vous nous avez dit ces différents lundis, hein?
Alors, voilà. Donc, c'est à Doumazan-sur-Arize, à la salle des fêtes. C'est le lundi 19 octobre. Et puis ensuite, 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier. Donc une fois par mois, le lundi, de 20h à 21h30. Alors la méthode, c'est de la pédagogie active. Hein. Chacun dans le groupe peut apporter sa pierre au chemin fait en commun. Et c'est animé par la pasteure et théologienne Katharina Schall. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des rencontres intéressantes, à la fois parce qu'elles sont œcuméniques, parce que la pédagogie utilisée permet à chacun de participer, et puis c'est un contact vivant avec la parole de Dieu.
C'est bien noté, père. Est-ce que vous avez d'autres événements à nous signaler en Ariège, dans votre diocèse, pour les prochains jours?
Écoutez, il y a le 31 octobre, un concert, un chant choral et polyphonie corse, dans un lieu un peu exceptionnel, dans le Castillonnet, dans le Couserans, le 31 octobre, à la chapelle d'Audressin. C'est une chapelle avec de belles fresques du XIVe siècle, classée au patrimoine mondial parce qu'elle est sur le chemin de Saint-Jacques. Le 31 octobre, un concert à 21h dans l'église d'Audressin, à côté de Castillon. Je crois que ce sera vraiment avec ces polyphonies corses qui résonneront sous les fresques des anges musiciens du 14e, un beau moment vraiment musical.
Eh bien, merci. Ces deux rendez-vous sont notés. Est-ce que j'ose un troisième?
Écoutez, pour le troisième, nous verrons au prochain épisode.
Bien répondu. Merci beaucoup, Père Serge Billot. Nous étions ce matin en Ariège avec vous pour les événements à venir dans la quinzaine. Demain, notre tour des diocèses nous emmènera dans un autre coin de notre région. Merci à vous, Père. Je vous dis à dans 15 jours.
Au revoir.
Présence. L'air du temps avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. Avez-vous lu la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, tous frères, parue il y a 3 jours? Il faut vraiment trouver le temps de la lire, soit sur le site du Saint-Siège, vatican.va, soit en vous la procurant en librairie. C'est un texte salutaire. Il tombe en pleine actualité. Il fait la lumière sur ce qui ne va pas dans notre société et sur les moyens de changer les choses dans le bon sens. C'est une analyse lucide, très concrète, très proche de notre expérience quotidienne et pleine d'espérance à la fois humaine et théologique, car les deux peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement, on le comprend en lisant ce pape argentin qui parle clair et fort. Et en lisant Fratelli Tutti, je tombe par exemple sur le paragraphe 179. Écoutez, sur le plan mondial, la société a de sérieux défauts structurels qu'on ne résout pas avec des rapiécements ou des solutions rapides, purement occasionnelles. Certaines choses sont à changer grâce à des révisions de fond et des transformations importantes. Seule une politique saine sera à même de les conduire, en engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus variées. De cette manière, une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et populaire visant le bien commun peut ouvrir le chemin. Fin de citation. Une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et populaire. Alors oui, cette idée d'intégrer l'économie dans un projet de société qui la transcenderait, qui la ferait servir à autre chose qu'à la domination de la finance, c'est le contraire de l'idéologie imposée au monde depuis 40 ans. Selon cette idéologie dite globale, c'est la société qui doit servir l'économie et l'économie doit servir la finance, laquelle ne doit servir qu'elle-même. Voilà comment on fabrique un monde antinaturel à tout point de vue, avec de lourdes conséquences sur notre vie privée et notre existence personnelle. Parmi ces conséquences, il y a l'isolement croissant des personnes, qu'elles soient mises à l'écart en raison de leur âge ou de leur infériorité sociale, ou au contraire, qu'elles se replient sur la défense aveugle de leur statut confortable, dans une indifférence croissante envers les autres. Le résultat de l'idéologie actuelle, c'est l'émiettement de la société. Et le remède à cela, la planche de salut, c'est de redécouvrir l'amitié sociale, comme dit l'encyclique. Amitié sociale, le mot sonne bizarre, dans une époque où les médias nous font baigner dans une ambiance de conflit de tous contre tous. Mais si l'esprit de fraternité a été chassé de la société séculière, qu'on ne s'étonne pas de le voir revenir sur les ailes du message du Christ. On ne peut que souhaiter le voir renouveler la face de la terre, comme dit le chant bien connu. À la semaine prochaine.
Radio Présence dans le Grand Toulouse. 97.9.
Dans moins de 5 minutes, vous aurez votre évangile de ce mercredi 14 octobre dans votre région. En attendant, nous allons laisser entrer le soleil avec une chanson que j'adore. Le Sud, Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. We'll be right back. enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Toujours en été,
présence à foi 100.2.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit : Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu.
Frère bien-aimé, cher pèlerin de Lourdes, voilà un évangile difficile et douloureux quand Jésus prononce ses malédictions contre les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Pour bien comprendre l'exigence de Jésus dans cet évangile. Souvenons-nous, faisons mémoire rapidement des heureux événements qui ont eu lieu ici à Lourdes au moment des apparitions de la Vierge Marie, cette rencontre entre la Vierge Marie et Sainte Bernadette. Que se passait-il quand, pendant de longs instants, elles se regardaient en silence, elles se souriaient mutuellement en silence? C'est bien sûr d'abord le sourire de Marie, le regard de Marie qui touchait profondément le cœur de Bernadette. On peut le comprendre, elle qui avait jusque-là une vie plutôt malheureuse, précisément, eh bien le sourire de Marie et le regard de Marie a littéralement transpercé et ouvert le cœur de Bernadette, qui s'est alors totalement ouverte. Elle a ouvert son cœur, son esprit, son âme, son intelligence, tout son être, pour rentrer dans une communion, dans la relation avec la Vierge Marie. Et elle est rentrée donc ainsi dans le bonheur du ciel, ce bonheur que Marie a promis de manière explicite à Bernadette. Pour cela, il fallait que le regard de Marie et le sourire de Marie touchent en profondeur le cœur de Bernadette et ouvrent le cœur de Bernadette, comme si la clé d'ouverture d'un cœur, c'était le sourire de Marie. Pourquoi est-ce que le sourire de Marie et le regard de Marie est capable d'ouvrir les cœurs? Et bien simplement parce que le sourire de Marie et le regard de Marie laissent passer l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, nous avons la révélation que l'Esprit Saint couvre Marie de son ombre. Partout où il y a Marie, l'Esprit Saint accourt. L'Esprit Saint est là et c'est bien l'Esprit Saint qui est venu toucher le cœur de Bernadette pour que Bernadette puisse entrer en communion avec Marie. Et cela a totalement transformé l'existence entière de Bernadette. Elle en témoignera par la suite, bien sûr, et elle goûtera, même dans les difficultés de la vie, le bonheur de l'autre monde, le bonheur du ciel. Frères bien-aimés, voilà ce qui manquait aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi. Ils étaient pleins d'eux-mêmes et incapables de se laisser transpercer par le regard même de Jésus, le regard de Dieu. Et leur hypocrisie, que Jésus dénonce en permanence, faisait comme une sorte de filtre opaque qui les empêchait d'accéder à la lumière, de recevoir le don de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ils sont malheureux, ils tombent dans ce malheur, et Jésus dénonce précisément leur hypocrisie qui est une sorte de verrou qui bloque leur cœur, et si bien que même l'Esprit Saint ne peut plus toucher la grâce, par sa grâce, leur cœur. Frères bien-aimés, nous qui sommes pèlerins de Lourdes, eh bien je pense que si nous sommes là, pour nous, comme pour tous nos frères, pour ceux que nous aimons, ceux pour qui nous sommes venus en pèlerinage aujourd'hui, ceux pour qui nous prions, nous avons le désir d'ouvrir nos cœurs. Alors vivons l'expérience de Bernadette et non pas l'expérience des pharisiens. Vivons l'expérience de Bernadette et en nous présentant ici à cette grotte, eh bien laissons-nous littéralement transpercer. Vous avez entendu Saint Paul quand il écrit aux Galates, l'Esprit Saint peut agir en nous jusqu'à transpercer et crucifier en nous le vieil homme, l'homme qui vit de la chair, cet homme hypocrite finalement qui voudra toujours se cacher derrière lui-même. Nous avons besoin d'être transpercés comme le Christ lui-même a été transpercé pour être cloué sur la croix. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint qui va tuer en nous le vieil homme pour libérer l'homme nouveau, l'homme qui va goûter le bonheur du ciel. Cette espérance que nous pouvons avoir. Nous le savons, la Vierge Marie nous regarde. Je pense que nous ne la voyons pas comme tous les contemporains de Bernadette. Ils accompagnaient Bernadette à l'apparition, mais ils ne voyaient pas la Vierge Marie. Mais Bernadette témoignait que Marie les regardait, que Marie leur souriait. La Vierge Marie prenait le temps de passer de son regard toute la foule qui était autour de Bernadette et de sourire à chacun. Et cela, nous le savons maintenant. Même si nous ne voyons pas la Vierge Marie, nous savons qu'elle est là et que son regard et son sourire nous sont adressés et peuvent donc toucher notre cœur si nous acceptons que ce voile-là, opaque, que nous avons tous devant soi finalement, tombe. Puissions-nous avoir cette grâce d'ouvrir littéralement notre cœur. Là, pour cela, nous avons cette messe, évidemment. Nous allons être établis en communion avec Jésus, mort et ressuscité, pour toucher notre cœur en profondeur. Nous avons tous les gestes de notre pèlerinage. Je pense au geste de l'eau, qui nous allons même boire de l'eau pour accueillir à l'intérieur de nous-mêmes la grâce de l'Esprit Saint. Pour un peu, il va pleuvoir et vous allez être transpercés littéralement par cette eau. C'est l'espérance que nous pouvons avoir, que c'est pour que nous soyons comme burinés là par le don de l'Esprit Saint et touchés en profondeur. Et puis à la fin, nous allons mettre un cierge, nous serons illuminés de l'intérieur, comme Bernadette elle-même était illuminée de l'intérieur quand elle enfermait de ses mains cette flamme-là lors d'une apparition. Elle a mis ses mains dans la flamme pour montrer à quel point elle vivait la grâce de la transfiguration, de la résurrection du Seigneur Jésus. Espérons donc et prions pour cela que toutes nos démarches de pèlerinage, que notre présence ici à Lourdes nous aide à faire tomber ce voile opaque pour ne pas tomber sous les malédictions de Jésus adressées aux pharisiens, mais que nous goûtions ensemble avec Bernadette et avec tant et tant de pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés et que nous suivrons encore, et bien que nous goûtions le bonheur du ciel. Amen.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vous êtes toujours sur Présence, Florian Hauze, heureux de passer cette fin d'heure avec vous. Avant 13h, vous aurez votre météo et bien sûr le rappel des titres de votre région avec Luc Vidal-Giraud. Et si vous avez loupé une émission, je vous invite à retrouver l'émission sur le www.radioprésence.com. Vous êtes en train de finir votre repas avant de repartir au travail. Pour vous encourager, la voix chaude de Syl sur votre radio chrétienne. Il est midi 51 tout pile.
This is amazing. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. There's just no secret that woman, she fills my loving cup. 'Cause she sees to it, baby. Funny moves, honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Oh, so just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see. Tumble and fall on the mountain.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Votre rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud dans notre partie d'Occitanie en voiture, direction la reprise du travail. Bon courage.
Il n'y aura pas de salon d'agriculture millésime 2021. Il devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars. Il est annulé en raison de la crise sanitaire. Le concours général qui juge chaque année environ 12 000 produits agricoles et alimentaires du pays et dont les finales se tiennent pendant la durée du salon sera maintenu avec l'accord du ministère de l'Agriculture et pourrait se tenir dans différentes villes de province. Une surveillante de la prison de Seyss en Haute-Garonne a fait l'objet d'une enquête pour violence sur deux détenus. Les faits sont intervenus à la fin du mois d'août. Elle a été placée en garde à vue et sera jugée devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les associations de Pamiers vont devoir se serrer la ceinture. La municipalité a en effet décidé de réduire de 20% l'enveloppe financière qui leur est dédiée au motif que la crise sanitaire avait annulé de nombreuses manifestations. Le tribunal correctionnel d'Auch jugeait hier 5 personnes. Elles étaient poursuivies pour avoir, entre juin et juillet 2019, réquisitionné les portraits du président de la République accrochés dans les mairies de Baran, Castelnau-Barbarins et Saint-Jean-de-Comtal. Le ministère public, qui reconnaît la légitimité du combat pour le climat, a requis des peines de 100 à 300 euros avec sursis. Le jugement sera rendu le 27 octobre. Crise sanitaire, le virus gagne du terrain en Occitanie. Les chiffres communiqués 2 fois par semaine par l'Agence régionale de santé montrent une dégradation qui va crescendo depuis le mois de septembre. Dans son dernier bilan publié hier, l'Agence régionale de santé note que tous les départements, hormis le Lot, qui s'en tirent mieux pour le moment, sont progressivement de plus en plus impactés par le virus. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, annonce avoir trouvé les 25 000 volontaires dont elle a besoin pour tester le vaccin contre le coronavirus. Il n'a pas fallu plus de 10 jours. L'appel à candidature avait été lancé le 1er octobre. Les CHU de Toulouse et Montpellier participent à cette vaste vague de tests. Basket, après 3 matchs reportés à cause de la Covid-19 qui a frappé l'intégralité de son effectif, l'Élan Béarnais est autorisé à reprendre sa saison. Les tests passés depuis la semaine dernière ont progressivement confirmé que la très grande majorité des joueurs étaient de nouveau négatifs.
Avant 13h, un rapide survol de votre météo pour cet après-midi. De rares averses dans quasiment l'ensemble de l'Occitanie. Sauf dans le Gers et en Haute-Pyrénées où il y aura des risques d'orage. 11 degrés de moyenne demain matin. Des éclaircies près de Padirac avec 7 degrés. Ainsi que dans le Tarn-et-Garonne et un petit 3 degrés tout près de Rodez. Pour les autres départements, un temps très nuageux à Toulouse où le mercure montera jusqu'à 8 degrés. Ça sera pareil pour Roche. Et sur la chaîne des Pyrénées, l'après-midi, un temps très lumineux dans le Lot près de Montauban.
Mans et dans la Haute-Garonne et le Gers où il fera 12 degrés. Quelques gouttes tout près de Tarbes, 11 degrés et de la grisaille pour Decazeville avec le thermomètre qui affichera un petit 8 degrés dans un instant. Radio Vatican, votre journal international en direct de Rome. Moi je vous dis à demain midi.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
Sur les lèvres du priant, le psaume devient un cri que le Seigneur entend. Le pape François poursuit.